Salut les marques, salut les smarts et bienvenue dans le supplément SmackDown de Catch Up, votre émission qui résume et analyse chaque semaine le dernier épisode du show bleu de la WWE SmackDown Live. Je suis Irem et je suis accompagné aujourd'hui de l'ami Chris. Salut Chris.
Salut Irem, salut peuple de Catch Up, bienvenue dans le monde merveilleux du show bleu ou pas. Et on commence, je voulais juste dire un petit mot pour commencer parce qu'aujourd'hui on a appris le décès d'Harley Race. Et pour situer pour les jeunes, en fait, il avait 76 ans, hein, donc il n'était pas tout jeune. Un catcheur qui meurt dans des âges un peu plus classiques, on va dire. Et donc ce monsieur, quand même, pour l'histoire, il restera à jamais le tout premier champion des États-Unis de la WWE. Et il aura été aussi King of the Ring en 86. Et c'est un type qui a été multiple fois champion du monde poids lourd de la NWA. Et qui aura eu quelques feux de légendaire avec Ric Flair, voilà. Donc, il nous a quittés aujourd'hui, donc rest in peace, Harley.
Ouais, exactement. Fin de course, hein, la fin de la course pour Harley Race. Et du coup, petit hommage peut-être à la fin de cet épisode, puisque le champion US était là, lui. C'est pas le premier, mais c'est le dernier en date, le champion US. Donc, comme ça, on pourra faire un petit coucou, une petite dédicace, un petit clin d'œil à ce catcheur, effectivement, qui aura marqué l'histoire de la discipline.
Un gros personnage des années 70 en particulier, hein, et qui a affronté les plus grands à l'époque, les Sammartino, etc. Et c'était Gorilla Monsoon, c'était un catcheur de cette époque-là, un catcheur des territoires, et puis qui a rejoint la WWF dans les années 80, et puis qui avait ce fameux premier titre US, qui gagne le King of the Ring en 86 avec un beau plateau dans mes souvenirs, j'essaierai de vous le retrouver.
Et
c'est un type qui a marqué son époque.
Un autre qui a marqué son époque, c'est Shane O'Mac, hein. Shane McMahon, il a marqué son époque. C'est la guerre des territoires parce qu'il avait envahi au Monday Night Raw et SmackDown Live. Là, il se concentre un peu plus sur SmackDown Live. Mais pour autant, le fils du patron n'est pas là ce soir. On a une petite vidéo qui apparaît sur le Titantron. Avec son téléphone, il nous explique que c'est quoi, son coach de vie lui a conseillé de ne pas venir ce soir. Il sait que les gens seront tristes, qu'un SmackDown sans Shane O'Mac, c'est comme un repas sans fromage. C'est difficile, mais bon, il faut faire avec. Tant pis pour le fromage, tant pis pour Shane O'Mac. Kevin Owens.
Ouais, mais ouais. C'est bon pour la ligne de ne pas manger de fromage, en particulier.
Oui. c'est bon, effectivement, pour le rythme sanguin de ne pas trop voir Shane O'Mac. Sinon, après, on est trop énervé et ce n'est pas bon pour le rythme cardiaque. Ouais. Ce n'est pas bon pour le cœur.
Et depuis Crown Jewel, l'overdose est grande, très très grande.
On a construit des salles de shoot un peu partout dans le monde pour justement les gars qui sont accros à Shane O'Mac ou qui veulent décrocher. La WWE a du mal à décrocher de Shane O'Mac, mais peut-être que l'espoir viendra de cet homme, Kevin Owens, canadien, 148 kilos, 1m50, mangeant ses pancakes à 16 heures perdues. Kevin Owens, le nouveau sauveur, hein, notre nouveau héros. À toutes et à tous, lui il vient, il se moque de Shane en disant, on a le pagan comme ça, le public, en disant, oh là là, je sais vraiment pas si on va réussir à surmonter l'absence de Shane O'Mac. Est-ce que vous pensez qu'on va y arriver? Alors tout le monde là, oui, on va arriver évidemment, qu'on veut pas avoir secours et tout. Donc il se moque évidemment de Shane à ses dépens. Il lui annonce qu'à SummerSlam il va le battre et qu'il va pas abandonner, il va pas quitter, hein, parce qu'effectivement, rappelons-le, la stipulation est que si Kevin Owens perd son match face à Shane O'Mac cet été, eh ben il va devoir partir. Kevin Owens, il va devoir partir, mais bon, on sait toujours ce que ça veut dire partir. Drew McIntyre, eh ouais, le bras droit, l'homme, le molosse, hein, de Shane O'Mac arrive, il n'est pas content, il dit que Kevin Owens parle beaucoup trop, que ça va se régler ce soir dans un match, et pourquoi pas maintenant, passage à tabac, ça se finit sur la table des commentateurs, et du coup le match débute dans la foulée, nous annonce Drew McIntyre. Drew McIntyre qui déroule, hein, sur Kevin Owens, gros match là, entre les deux, beaucoup d'impact, Kevin Owens, il se bouffe un petit peu tout l'arsenal de l'Écossais. Ça se termine sur la table des commentateurs avec un gros stunner de Kevin. Retour sur le ring, le super kick, un second stunner pour la victoire. Et oui, la victoire de Kevin Owens. Drew McIntyre n'a pas réussi à allonger le Canadien pour le compte de 3. Et on se retrouve donc avec un Kevin Owens là, qui est bah, chaud bouillant, qui bat quand même un sacré morceau là, de viande. Dis-moi
ouais, qui est montré fort.
Résultat presque étonnant, puisqu'il n'y a aucune intervention, très clean. Hein, le stunner, on nous vend le stunner sur la table des commentateurs. On sait qu'une prise portée sur la table des commentateurs est multipliée par 10 en termes d'impact. Mais quand même, une belle victoire, bien clean, là, dans un match bien solide. Est-ce que pour autant, on n'est pas triste là, de l'absence de Shane O'Mac ? Qu'est-ce qui t'a manqué ce soir ?
Absolument pas. Donc c'était formidable. Quand j'ai vu la vignette, en plus, ça m'a donné espoir d'entrée. Je me suis dit, oh, c'est une vignette d'entrée, avec un peu de chance, et paf ! Voilà, il a juste fait sa vignette et il a disparu du show, et ça, c'était formidable. Après, on a Keo qui vient donc sur le ring, comme tu l'as dit, qui fait une petite promo sympa, quoi, qui mangeait pas de pain, véritablement. Hein. Voilà, on se lance des défis, on se jauge, on se donne rendez-vous, et puis voilà, ça se passe comme ça, ça se passe comme ça à la WWE. Et puis après, comme tu l'as dit, alors là, pour le coup, on a eu un bon match de 13 minutes, donc un gros opener de SmackDown avec Kevin Owens, qui du coup nous est vendu très fort, et c'est très bien. Voilà, je pense que là, il est vraiment dans ce rôle, là, il est en train d'accéder tout doucement, mais sûrement au statut de top babyface. Hors Kofi, je ne crois pas qu'il y ait quelqu'un d'autre que KO qui est de tel pop dans les salles américaines à l'heure actuelle. On était où ?
La foule était électrique. Hein, ouais.
La foule était déjà très chaude à Little Rock lundi à Raw. On était où dans ce SmackDown cette semaine ?
Bah, je vais regarder si tu veux pendant ce temps-là.
Ouais, même plus où on était, mais en tout cas, la foule, félicitations, parce que c'est toujours agréable pour le show, pour celui quand on suit par écran interposé, d'avoir une bonne foule dans les weekly. Donc là, ça a été une semaine sympa à ce niveau-là. Et parce que vraiment, Little Rock avec le ringside, on s'en est largement félicité de l'ambiance de la foule qu'il y avait à Raw. Donc voilà,
effectivement.
Donc, très bon combat, avec un gros finish bien spectaculaire, avec ça passe à travers les tables des commentateurs. Tom Phillips était, il n'en pouvait plus, quoi. même Corey Graves à côté semblait complètement épaté par l'enthousiasme de son collègue, parce que vraiment Tom Phillips, je l'ai rarement entendu autant crier pendant ce match, quoi. Et McIntyre, de toute façon, hein, moi je continue à j'entérine le fait que ce gars-là, c'est du main event. Du main eventer material, quoi. Et d'ailleurs, je crois qu'il y a un certain nommé Dwayne Johnson qui a un peu adoubé cette semaine Drew McIntyre, quoi, en disant qu'il voyait en lui l'avenir de la compagnie. Et je suis d'accord avec The Rock, je suis pas trop du genre à venir me mettre en désaccord avec un mec de 130 kilos, quoi. Donc, tout à fait, McIntyre, c'est le futur des heels, et Kevin Owens, bah, il est en train de devenir tout doucement, mais sûrement, le top babyface. Alors, j'avais une question pour toi, justement.
Ah bah, vas-y, balance.
Étant donné que maintenant, on a deux babyface à SmackDown, là, avec Kevin Owens et Kofi Kingston, est-ce qu'à un moment ou un autre, Kevin Owens va recroiser la route du titre suprême, à ton avis, mon bon IRM ?
J'en sais trop rien. Croiser, oui, mais de là à battre le fer, peut-être parce dans que... une belle affiche de face contre face, quoi, qui serait un peu perturbé, qui nous mènerait au Survivor Series, avec une belle équipe. Et encore, maintenant, s'il y a toujours le titre...
J'ose espérer, si tu veux, que Kevin Owens et Shane McMahon, ça va pas durer 6 mois. Et si tu veux, c'est même pas forcément dans le cadre d'une feud entre Kofi et KO, mais peut-être dans le cadre, tu vois, peut-être avec 3 ou 4 mecs impliqués dans la feud, avec un ou deux heels, plus KO et puis Kofi, ça pourrait être pas mal, non ?
Ouais, je me souviens plus. C'est pas Survivor Series où ils font des Raw versus SmackDown comme ils faisaient avant. C'est dans un autre pay-per-view où ils font. Tous les champions qui s'affrontent,
c'est dans Night Battle of Champions, Run, of Champions, ouais. Night of Champions, oui. Toutes les ceintures sont remises en jeu.
Ça, et t'as Battlegrounds où ils font, je crois, aussi un peu du Raw versus SmackDown à Battlegrounds, non ? Je sais plus, ouais, je crois.
Ah non, je crois, non, vraiment, le Raw versus SmackDown, c'est vraiment uniquement sur Survivor Series, hein, depuis quelques années maintenant.
Moi, je vois bien pour cette histoire de chaîne, presque limite, je réclamerais presque. Là, SummerSlam, effectivement, je sais pas ce qu'ils vont. Tout dépend de vraiment ce qu'ils font à SummerSlam, mais ils peuvent faire durer l'histoire de chaîne jusqu'au Survivor Series et avoir une team chaîne versus une team Kevin Owens. Et à la fin, chaîne s'en prend tellement plein la gueule par Kevin Owens que c'est emballé, c'est pesé une bonne fois pour toutes. Et après, après la route pour WrestleMania s'ouvre, hein, donc
Ouais,
ça va très
enfin moi
vite, hein.
je t'avoue que j'ai du mal à imaginer Kevin Owens perdre à SummerSlam. Pour moi, il va gagner, mais après c'est un avis personnel, les amis.
SummerSlam, historiquement, SummerSlam est aussi la terre des heels, hein. On sait que y a les statistiques sont souvent à l'avantage des heels dans les grosses affiches là, à
Ouais,
SummerSlam, mais bon, c'est
c'est
pas une
vrai.
vérité absolue. Et puis, enfin, la foule est tellement chaude là pour. Et Shane O'Mac a déjà gagné tellement de fois. Toi, il a quand même battu Roman Reigns. Il est arrivé à un niveau où suffisamment haut que les gens le détestent. Ça, c'est le vrai ultime boss de SmackDown. Que effectivement, le battre à SummerSlam serait déjà une très belle histoire.
Ouais, c'est un peu le top heel de SmackDown depuis maintenant pas mal de temps, depuis trop longtemps.
Mais tu sais, cette histoire avec Kevin Owens, elle dure de pas si longtemps que ça. Et je serais un booker, scénariste. Je me dirais peut-être, tiens, SummerSlam, c'est quand même bientôt. Il y a on a encore des choses à faire là, peut-être, entre Kevin Owens et Shane
Ouais,
O'Mac.
alors il reste les Go Home Show là, la semaine prochaine. Et puis après, on.
Ouais, mais pour raconter une autre histoire, toi, peut-être que. Parce que finalement, Kevin Owens, il n'a pas vraiment rencontré énormément d'adversité pour cette histoire, cette rivalité encore, toi. Il vient d'arriver récemment, là, il a été projeté dans cette rivalité et ça va être leur premier match-up officiel entre les deux. Donc, on verra, mais ce qui est sûr, c'est que là, on s'y trompe pas, la foule ne s'y trompe pas, c'est Kevin Owens, il est au top, et on a le face, je pense qu'on a, par rapport à Kofi Kingston, on est, ouais, ça se tient, quoi, les deux sont vraiment très bons, et du coup, je les ferai pas forcément se croiser la route, hein, pour une fois qu'ils arrivent à construire des top babyface, ça sert à rien de les mettre ensemble, si ce n'est lors d'un weekly pour faire chauffer la salle, mais c'est bien qu'on ait
Ouais, moi c'est
plusieurs
pas.
champions. Plusieurs faces adulées, toi.
Je trouve que c'est bien d'avoir Kevin Owens et Kofi, c'est des catcheurs qui sont bons dans les matchs à plusieurs. Et Kofi, ça cache un peu quelques lacunes. Et KO, lui, il s'épanouit. Plus il y a du mec à fracasser, plus il est heureux.
Ah
Donc
ouais.
c'est pour ça que j'avais bien envie de voir des matchs un peu croisés, du Fatal Four Way, du Triple Threat, tu vois, des choses comme ça, quoi, un truc un petit peu sanglant. Mais enfin bon.
Ah bah ils peuvent nous faire plaisir dans des weekly ou dans des pay-per-view secondaires en faisant des teams avec ces mecs-là.
Oui,
Mais
oui.
après Kofi Kingston, c'est vrai, ils ont vraiment pas les mêmes histoires, ils sont pas du tout concernés par les mêmes problèmes de vie, quoi. Ils ont pas du tout la même. Leurs histoires pour l'instant ne sont parallèles, il n'y a pas d'échangeur entre les deux. Donc on verra
Non.
après SummerSlam, hein, effectivement, quel sera le programme. Mais en tout cas, c'était une belle entrée en matière, un bon match bien compétitif. C'est
Voilà.
assez rare, d'ailleurs, c'est à noter. Souvent, ça termine en autre boudin pour booker le main event. Là, pas du tout. On a eu entrée plat dessert en 20 minutes là, et on est parti sur une bonne voie. Allez, l'ancien camarade justement de Drew McIntyre, Dolph, est interviewé backstage. Il doit commenter ses vilaines actions de la semaine dernière où il a super kick, ou plutôt switch in music, comme ils le diront plus tard dorénavant les commentateurs. HBK, Dolph, il n'en a rien à foutre. Too bad, dit parce qu'il is too good. Il se moque des anciens, des légendes, hein, Mick Foley, Goldberg. Il s'est pas moqué d'Early Race, heureusement, parce que là, ça aurait été vraiment genre, je porte la poisse au pauvre gars. Et il explique qu'à SummerSlam, il va affronter le Miz, évidemment, hein, cette rivalité interminable continue. Et ce soir, il a un match contre Finn Balor. Alors, c'était un peu difficile pour Dolph. Hein, il devait parler de beaucoup de monde à la fois. Dans cette promo. Le match a eu lieu un petit peu plus tard entre Dolph Ziggler et Finn Balor. Il n'a pas duré très longtemps ce match, puisque à la cinquième minute, on a eu la musique de Bray Wyatt qui a retenti. ce Finn est apparu dans les. Il était quoi sur la rampe de la rampe là, je crois, d'accès. Il était quelque part.
Ouais, on ne sait pas trop en fait l'endroit où il était.
Planqué exactement. Dans le public, on n'a pas trop su quoi. En tout cas, la foule s'était levée, genre où est-ce qu'il est. Et du coup, bah, Dolph Ziggler en a profité pour battre Finn Balor. Donc Dolph Ziggler est chaud, la direction SummerSlam. Qu'est-ce que t'en penses toujours là de ce Dolph Ziggler qui retourne affronter son ennemi, son meilleur ennemi depuis toujours?
Ouais, bah écoute, on avait déjà eu l'occasion d'en discuter. Moi, ouais, je suis.
On avait déjà eu l'occasion d'en discuter. Je suis assez je pense une feud entre Le Miz et Ziggler, c'est toujours plutôt sympa. De toute façon, ça nous assurera d'avoir quelques bons matchs et tout ça. J'ai l'impression qu'en fait, Dolph il sert beaucoup de passeur de plat, passeur de feud. Et par contre, moi, j'ai surtout été étonné, finalement, pas tellement du traitement de Ziggler. Alors, comme tu l'as dit, les commentateurs dorénavant lui ont attribué le switch in music. Ça a commencé à Raw cette semaine. Ça a commencé à Raw. Et je suis plutôt étonné du traitement de Finn Balor là, sur ce coup-là. Quoi. Finn Balor, il perd encore un match. Alors, effectivement, avec une distraction.
C'est pour croiser les. Enfin, toi, c'est.
C'est vrai que.
Une ficelle un peu classique, toi.
Finn Balor, il a du mal à gagner des matchs quand même ces dernières semaines, quoi. Ou alors il se fait beaucoup, il se fait un peu agresser, on va dire, après ces matchs aussi, quoi. Donc il n'est pas dans une position super easy pour l'instant, l'ami Finn Balor. Mais si tu veux, Dolph, c'est un mec solide dans le ring, etc. Donc ce qu'ils nous ont donné tous les deux dans le ring, c'était plutôt sympa. On était assuré d'avoir un petit, même si c'était un petit match, que ça soit quand même de qualité, quoi. Donc et puis le Finn continue son chemin. Est-ce qu'on va le voir catcher à SummerSlam? C'est ce que je me demande maintenant.
Ah normalement oui. Sinon c'est qu'on s'est bien fait avoir, on s'est bien fait rouler. Mais effectivement ils sont pas, on n'est pas à l'abri d'un seul coup la WWE. Non, on va l'avoir ce match, je suis obligé. Mais dans quelle configuration exacte, ça, effectivement je sais pas, parce que si Finn Balor se présente en simple Finn Balor, il va se faire bouffer, ça c'est sûr. Donc,
j'ai un peu des doutes sur ce match. J'ai un peu des doutes qu'on ait un vrai match, tu vois. Je sens une espèce de truc, une espèce d'entourloupe. Voilà quoi. Ils vont trouver un moyen pour peut-être faire que ce match passe très très vite.
Peut-être une sorte de squash glorifié, une sorte de squash un peu déguisé.
Ouais, peut-être quelque chose comme ça. J'ai du mal à croire dans un vrai gros match.
Le match, c'est quand même une belle affiche contre un mec Finn Balor qui, comme on avait parlé d'ailleurs, qu'on a fait nos stats là, des victoires en pay-per-view, qui est assez solide en pay-per-view. Et surtout, si tu balances un gros match entre les deux d'entrée de jeu, je suis pas sûr que ça va raconter quelque chose. Alors que si tu trouves une petite astuce scénaristique de booking pour effectivement peut-être faire perdre Finn Balor très rapidement ou dans des circonstances très étonnantes ou toi... Enfin, clairement, on a un personnage qui est très particulier avec Bray Wyatt et qui... On ne sait pas à quoi s'attendre et tout peut arriver. Et peut-être qu'il ne va pas vraiment se battre entre les cordes, j'en sais rien. Effectivement, on ne sait pas. Donc, je pense qu'effectivement, ils auraient plus à gagner à nous raconter quelque chose sans avoir à faire un match effectivement de 10-15 minutes, toi.
Ouais, c'est impossible. Après, ce qui est bien, c'est que si tu veux, le personnage de Bray Wyatt quoi, est vraiment un personnage travaillé, comme ça fait longtemps qu'ils n'avaient pas autant travaillé un personnage dans le main roster. Donc du coup, c'est bien, il y a toujours plein de pistes. Ça fait des semaines, nous, à Catch Up, les amis, si vous nous écoutez, qu'on n'arrête pas de se dire, bah tiens, et qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il va faire ci? Il va faire ça, tu vois? Donc c'est bien, ça veut dire quand même que ils emmènent bien le personnage, que les gens accrochent et qu'on cherche à savoir, on cherche à en savoir plus. Donc ils ont réussi en partie déjà le développement du personnage. Maintenant, voir ce qui va se passer sur le ring et vers quoi on va l'emmener le Bray Wyatt.
Exactement. Bon bah alors on va changer de division si tu veux bien, direction la division féminine, puisque on a Bayley qui retrouve Ember Moon. Ça discute de la semaine dernière. Hein, les deux, Ember Moon a un petit peu filouté avec Bayley. Voilà, il y a un petit peu de compétition qui se met en place entre les deux. Ce soir, elles ont un match. Elles affrontent elles affrontent Alexa Bliss et Nikki Cross. Bayley prévient Moon que si ce soir elle tente encore de la lui faire à l'envers, elle le regrettera amèrement. On a un match donc tag team entre Moon, Bayley, Bliss et Cross. Et malheureusement, c'est Ember Moon qui va bouffer le tombé, puisque, alors qu'elle se trouvait, je crois, à l'extérieur du ring, avec sa Bliss, place son Twisted Bliss donc, sur la First Contender. Donc, on a un résultat assez étonnant là, entre, avec une victoire de Bliss et Cross face à Ember Moon. Oh,
ça n'a pas d'impact particulièrement. C'est une défaite en weekly dans un tag team match. On n'a même pas eu droit à la dissension entre Bayley et Ember Moon en fait pendant le match. Il y a même pas eu. Tu vois, ça n'a même pas été vendu comme ça. Ça a été vraiment vendu comme un match finalement simple. Et puis voilà. Et Ember, elle prend le tombé parce que d'abord elle porte l'éclipse à Cross. Elle est perturbée par Cross et du coup elle lui pose. Ouais. Ça. Et après, c'est derrière, elle en profite, la Miss Alexa, quoi.
Ah ouais.
Donc, écoute, j'ai trouvé que c'était un match, je vais dire presque de remplissage. Donc, il y avait rien, il y avait aucune interaction entre Bayley et Ember Moon alors qu'elles sont censées bientôt s'affronter. Il s'est rien passé. Donc, j'ai trouvé ça un peu ouais. Dommage.
Ouais, c'est ça. Alors, il s'est passé un truc, mais c'était après le match. Bayley a placé son Bayley to Bayley sur Ember Moon pour lui rendre la monnaie de sa pièce un petit peu de la semaine dernière. Voilà ce qui s'est passé. Que pendant le match, on nous a pas trop vendu dissension ou compétition exacerbée. On nous a plus cessé de presque nous raconter quelque chose avec Bliss et Cross qu'avec Bayley et Ember Moon, ce qui est presque dommage puisque Bliss et Cross n'ont pas de programme pour SummerSlam. Donc pourquoi s'attarder sur ces deux catcheuses qui ont eu des. Il y a eu des interviews un petit peu sur le parking, etc. Enfin.
On a parlé à Raw avec Ringside, tous les deux, on n'est pas super convaincus par l'association Bliss et Cross. Et écoute, à SmackDown, par contre, elles ont du temps d'antenne toutes les deux, hein, du coup, hein, elles apparaissent.
Ouais, moi, j'adore leur duo qu'elles forment, j'adore. Mais là, pourquoi elles prennent autant de temps d'antenne et de développement et alors qu'elles n'ont aucun programme ou alors on veut. Voilà, il va peut-être se passer quelque chose avec les ceintures tag team à SummerSlam, ce qui serait pas du tout étonnant. Du coup, on veut bien nous les montrer encore à la télé, mais l'équilibre, enfin, c'était bizarre. La focale était sur Bliss et Cross quasiment, alors que on doit nous vendre quand même une belle affiche là, Bayley Ember Moon pour SummerSlam. C'est un petit peu à côté de la plaque, quoi.
Un peu, ouais.
Un qui était à côté de la plaque et qui était derrière sa porte, c'est Aleister Black. Il est retourné derrière sa porte. Hein, Aleister Black, il est retourné dans sa cave. Il est différent, il a changé. Voilà, Cesaro est un vrai bonhomme. Il a accepté le défi. Mais là, il s'impatiente. Il va s'impatienter. Il sera moins patient que la dernière fois, puisque... Il attend une fois de plus que quelqu'un vienne un peu le chercher. Aleister Black, il a le bon rôle, quoi. Il campe et puis il attend qu'on vienne. Et bien, celui qui va venir, il est petit,
ouais.
Il est roux, il est canadien. Avant, il avait un masque de luchador.
Et oui.
Et du coup, c'est bien Sami Zayn dont on parle, hein, qui, lors d'une interview, dit bah, « Moi, le gothique, là, je vais aller le chercher à SummerSlam et puis je vais lui botter les fesses. » Parce qu'il y en a marre de cette hype et que moi, je vais montrer à tous que c'est une grosse arnaque. Alors, est-ce que Sami Zayn fait un beau suivant, un bel adversaire suivant après Cesaro?
Ah ouais, après Cesaro et maintenant Sami Zayn, c'est pas mal comme enchaînement d'adversaires, je trouve. Surtout que Cesaro et Zayn, il y a eu un Gauntlet match à Raw qui a été quand même d'anthologie. Et du coup, moi je suis carrément client de cette feud entre Aleister Black et Sami Zayn. J'espère que ça va aller un petit peu plus loin que ce qui s'est passé avec Cesaro, qui sera réduit à un match. Mais ou deux matchs, je crois qu'il y a eu un match à un
match. Le rematch le lendemain.
Le rematch le lendemain, oui, voilà. Donc. Mais je suis plutôt ouais. Cette affiche me sied bien.
Ouais, bah écoute, je suis d'accord avec toi. Mais il nous faut un petit twist là. Il faut un SummerSlam, il faut qu'il se passe quelque chose, ou le lendemain, il faut qu'il se passe quelque chose. Avec Sami Zayn qui est un peu fourbe, il va peut-être. Il faut qu'on fasse dévier un peu à Aleister Black de sa trajectoire là, qui sort un peu de sa cave. C'est bien qu'il y retourne, ouais. Mais.
Bah, il va se passer un truc au Go Home Show. Il va se passer un truc.
J'espère en tout cas. Bon, tu nous parlais d'un ancien qui nous a quittés. Un qui est toujours là, c'est Jerry Lawler. Il ne veut pas partir. Il est là avec son trône au milieu du ring. Il a une invitée ce soir. C'est Trish Stratus, ni plus ni moins. Trish, c'est toujours la forme. Hein. Elle est contente d'être là. Et Lawler fait du Lawler. Visiblement, il suit toutes les catcheuses sur Instagram. Il bouffe un peu sa promo. Ils ont un petit peu du mal. Hein. C'est un petit peu du mal, toute cette séquence à avancer. Ils nous parlent de leurs bons souvenirs du Raw Reunion qu'il y avait eu la semaine dernière. Et Charlotte débarque et elle vient provoquer tout simplement Trish Stratus, puisqu'il ne peut pas y avoir de cour royale sans une reine. Elle explique qu'elle sera à SummerSlam, qu'elle veut un gros défi. Donc elle est venue chercher Trish Stratus. Trish Stratus explique qu'effectivement, avant, pour qu'il y ait une Charlotte, il a fallu une Trish Stratus, que la révolution féminine, elle a commencé avant, blablabla. Vous connaissez dorénavant l'histoire hein, qu'on nous vend. Et Trish Stratus finit par accepter le défi de Charlotte. Les deux se regardent face à face. Ouais, écoute, on a une promo un peu compliquée à se mettre en place, mais on a enfin notre grosse affiche, le passage de témoin entre bah, tout simplement celle qui dominait la division féminine il y a 15 ans et celle qui domine la division féminine aujourd'hui. Donc finalement, c'est digne d'un SummerSlam, ça.
Ah oui, moi je trouve que c'est une affiche totalement digne de SummerSlam. En plus, bon, ça tombe bien, ça se passe au Canada, ça s'enchaîne bien, et ils ont placé Natalia face à Becky, ils placent Trish Stratus face à Charlotte. Les deux plus grandes, il n'y a pas à chier, quoi. Hein, c'est les deux plus grandes de l'histoire, quoi. Voilà. Parce que Charlotte, c'est elle qui domine. Je sais plus depuis combien de temps elle est dans le main roster. Depuis 2014 2015 peut-être, je sais plus. Enfin, en tout cas, ça fait 4, 5 ans, 6 ans que Charlotte, voilà, elle plane au-dessus de la division féminine et que personne, je crois, n'y redit rien du tout. Parce que c'est mérité, parce que cette fille, elle a révolutionné quand même ce qu'on pensait auparavant du catch féminin. Et pour moi, voilà, c'est une belle affiche à SummerSlam. C'est voilà un match qui va complètement m'intéresser. Et alors après, je suis d'accord avec toi, la promo, elle était mauvaise. Je pense que le Jerry Lawler, il est largement responsable de ça, quoi, parce que ouais, lui, il est complètement fraise, celui-là, quoi. Comme tu dis, il suit tout le monde sur Instagram, on se demande pourquoi, hein. Hein, King Lawler, pourquoi tu suis les filles sur Instagram comme ça?
Voilà. C'était que sur Instagram.
Voilà, hein. Donc effectivement, la promo était plutôt mauvaise, et Charlotte, d'ailleurs, a relevé le niveau dès qu'elle est arrivée, hein, parce qu'elle, au micro, elle gère. Et heureusement, donc, elle a été là un peu pour remonter tout ça. Et puis, du coup, je pense que ça a remis à l'aise Trish Stratus, qui était justement pas très à l'aise avec le vieux pervers. Donc, du coup, voilà, elle lui a dit, oui, Flair, t'es une grande lutteuse, mais t'es une bite, quoi. Voilà, on est revenu aux fondamentaux.
Elle lui a dit, retourne changer les couches de tes gamins, là. Qu'elle lui a dit, donc, retourne dans ton minivan et changer les couches qu'elle lui a fait. Charlotte à Trish Stratus, qui est une jeune maman, effectivement, une génération d'avant. C'est pas, voilà, elle commence à avoir une vie rangée, hein, donc, mais pleine et entière. Donc, effectivement, t'as raison, Charlotte est venue un peu sauver tout ça. Moins de Jerry Lawler et un peu plus de Charlotte Flair, et puis on s'en portera tous gagnants, je pense.
Oui. D'accord.
Ouais. On enchaîne, on a eu droit à un match entre Shinsuke Nakamura et Ali. Alors, il faut savoir que les deux se sont affrontés à SmackVille. Est-ce que tu as regardé SmackVille, l'espèce d'événement spécial de SmackDown qui avait lieu oui. à Nashville, j'imagine?
J'ai regardé SmackVille, c'était à Nashville, ouais, tout à fait. Ouais. Alors, en tout cas, de télévisé, il y avait trois matchs. Il y avait KO versus Elias. Et écoute, je t'avoue que j'ai oublié les deux autres matchs. Enfin, c'était un tag team match pour finir. Le main event était un tag team match. Enfin, je t'avoue, j'ai oublié. Tellement ça n'avait pas d'intérêt particulier. J'ai vu ça en fast forward. Voilà. Donc, si vous, dans les commentaires, peuple de catch-up, s'il y en a qui veulent donner un avis sur les matchs. Le match que je te dis, KO et Elias, c'est ce qui m'a le plus marqué. parce que Elias a fait une grosse intro avec le public comme on le voit plus faire depuis longtemps maintenant dans les weekly, depuis qu'il est devenu un pauvre enforceur de Shane McMahon. Et là, pour le coup, il a retrouvé son personnage un peu de troubadour sanglant, et c'était plutôt sympa. Voilà, il a eu un long segment. Il y a eu un long segment fait avec KO avant qu'il y ait le combat proprement dit. Ça, c'était plutôt sympa. Les deux autres matchs, j'ai oublié, il y avait un tag team match random et un opener random. Voilà.
Bon, bah écoute, en tout cas, Ali a visiblement appris de sa défaite, hein, parce qu'il avait perdu face à Nakamura, hein, Smackville.
Excuse-moi, oui, c'était ça l'opener. C'était Ali, Shinsuke Nakamura. Et
on rattache les trains. Les
voilà, tout ça.
Il a appris, puisque là, il a contré à plusieurs reprises Kinshasa et a surpris The Artist, Nakamura, pour une victoire. À la filoute, hein, 2 minutes en bas laissé peser, et du coup, on va voir un petit match de championnat pour Ali à SummerSlam, quoi.
Voilà, ouais.
Une belle petite affiche.
C'est ça. Bon, là, c'était tout pourri, hein, en moins de 3 minutes, je crois, le combat. C'est, il contre un Kinshasa en tombée, bon, voilà. C'était vraiment pas...
les gars, on leur a donné 3 minutes, ils ont utilisé les 3 minutes. Au moins, ils nous ont vendu, ils nous ont montré un truc, ça restait tout à fait correct. Et puis, le vrai match, il faudra attendre, il faudra s'abonner au network pour voir le vrai match.
Le problème, si tu veux, c'est qu'on nous montre un match de moins de 3 minutes et on nous donne rien comme piste à la fin du match pour nous dire est-ce que Ali va se porter contender, est-ce qu'il y a d'autres contenders possibles.
D'ailleurs, les commentateurs étaient un peu à la masse puisqu'ils savaient pas trop, ils n'avaient plus à se rappeler si c'était un match pour le championnat ou pas, parce qu'ils étaient là, oui, et le nouveau vainqueur de ce match, Ali, oui. Le nouveau vainqueur de ce match. Quoi. Enfin, le mec s'apprêtait à dire le nouveau champion, quoi, parce que je ne sais pas pourquoi les commentateurs s'étaient mis en tête. Où il ne savait plus que c'était un match pour le titre. Donc, c'est pour ça qu'il y a, à mon avis, un peu de trouble. Là, ils n'ont pas su dire, mais effectivement, si ça n'a pas été validé, on se doute bien que ces deux-là vont se retrouver à SummerSlam. D'ailleurs, on avait une question sur Facebook. Tant que j'y pense, c'est Giscal, qui est notre social media manager. Là. Un de nos auditeurs nous avait posé une question, je crois, sur Facebook. Pour justement concernant l'affiche autour du titre intercontinental, on en avait déjà un petit peu parlé la semaine dernière, où on nous parle de Fatal 4-Way, de Six Pack Challenge, de Ladder Match pour le titre intercontinental.
Ouais.
On en avait parlé la semaine dernière, effectivement, on aimerait bien voir ce genre de configuration autour de la ceinture blanche avec de la grosse mid-card qui se base.
Parce que
des grosses
configs, le titre intercontinental s'y prête bien en plus, quoi. Et il y a eu souvent des gros matchs à plusieurs dans l'histoire de ce titre, quoi.
Un triple threat entre Ali, Apollo et Nakamura pour le titre intercontinental à SummerSlam. Je pense pas qu'on verra qu'Apollo Crews sera dans l'équation pour SummerSlam.
C'est quoi la question exactement, Yann?
Un certain Gilbert qu'on salue qui nous demande est-ce qu'on pourrait voir un triple threat entre Ali, Apollo et Nakamura pour le titre IC intercontinental à SummerSlam?
Déjà, salut Gilbert, et moi je vais te donner ma réponse. J'aurais été carrément d'accord avec une affiche comme ça, un triple threat, pourquoi pas, ouais, avec Apollo, pourquoi pas, ouais, moi j'aurais bien rajouté. Je suis d'accord. Après. Effectivement, dans la mid-card, Irem l'a dit, mais dans la mid-card, on aurait pu aller chercher aussi un ou deux autres catcheurs, certainement, pour agrémenter tout ça. Mais quelque part, peut-être que mettre le titre intercontinental juste dans un 1 contre 1 classique à SummerSlam, c'est peut-être un peu mou du genou. Et on aurait pu nous travailler un peu l'histoire autour du titre IC. Alors moi, je suis un aficionado du titre IC, né en 1979, premier champion Pat Patterson. C'est un titre pour lequel j'ai d'affection particulière. Parce que c'est en fait le premier match de championnat pour une ceinture que j'ai vu dans ma vie de catch américain. C'était le titre intercontinental. C'était en 84, je crois. Et à l'époque, c'était avec le Macho Man. Et voilà. Et il y avait Steamboat. Il y avait tous ces gars-là qui tournaient autour du titre intercontinental. Et j'ai toujours trouvé classe cette ceinture. Et au début, je ne comprenais rien au titre intercontinental quand j'étais jeune. Parce que je me disais, mais quand tu es champion intercontinental, tu n'es pas champion du monde?
Ouais. Une question restée sans réponse. Hein.
En fait, maintenant, j'ai une réponse, moi, à ça. Mais à l'époque, en tout cas, j'étais dans un grand questionnement, mais je trouvais tellement classe cette ceinture et les catcheurs qui tournaient autour que je suis tout de suite tombé amoureux du titre intercontinental. Donc, Gilbert, je valide un triple threat, même un fatal four-way, si tu veux, pour le titre intercontinental. Je valide.
Avec une petite échelle, c'est vrai que c'est SummerSlam, bordel. Ils ont du mal hein, à nous mettre des belles stipus d'échelle ou. En fait, d'échelle, je trouve que la stipu, j'adore les matchs à échelle pour ce titre. Ça marche super bien à chaque fois.
Mais oui, à WrestleMania, on a eu deux gros matchs comme ça pour le titre intercontinental, pour rappel, avec des six-man dans le.
Ah ouais, et ça a toujours été des matchs 4 étoiles, ami.
Et à WrestleMania, un match où c'est Daniel Bryan qui gagne le titre et un match où c'est Zack Ryder à la surprise générale qui gagne le titre.
Quel grand moment.
Un match où il y avait KO et Zayn dans le match de Zack Ryder d'ailleurs.
Et ça non mais tu mets toute la mid-card là-dedans, tu mets des mecs, des gros workers, des mecs qui sont prêts à se péter le dos, et on n'en manque pas quoi, tous ces mecs de 205 que tu fais monter là.
Le titre intercontinental, quelque part, je trouve que Nakamura fait un champion très honnête du titre intercontinental. Le problème c'est qu'il n'est pas servi par les histoires, il n'est pas servi par l'adversité, et on lui a mis que Ali dans les pattes. Et c'est vrai que c'est dommage. C'est pour ça que Gilbert, il est totalement raccord, hein, en tout cas avec moi, quoi. C'est clair que ça manque un peu de peps dans cette feud, quoi. Et que c'est vrai que ce titre mérite d'avoir des matchs à plusieurs.
Ouais, merci Gilou pour la question. N'hésitez pas à nous poser des questions, que ce soit sur Twitter, sur YouTube. Facebook, ouais. Visiblement. Heureusement que Giscard est toujours sur Facebook, parce que moi, j'étais passé à côté.
Moi, je suis fan, ça, c'est super. Merci, Gilbert, de poser des questions comme ça, c'est cool.
Bon, un qui ne se pose pas trop de questions, c'est Kofi Kingston. Il a choisi un Randy Orton pour son match de championnat à SummerSlam. On a un petit package vidéo, justement, de Randy Orton qui nous parle... de sa propre grandeur, hein, pendant que Kofi, lui, il fallait qu'il fasse le faux Jamaïcain, être un gars rigolo, voilà, effectivement, Randy Orton, il l'a renvoyé, Kofi, tout en bas de l'échelle.
Mais comment Orton
Orton, il était trop bon, ce package vidéo, il est énorme, franchement, si vous ne l'avez pas vu, vous le conseillez, parce que Orton, il est tellement bon, c'est... Orton, on dirait pas comme ça, mais c'est un des meilleurs en termes de promo, c'est un des meilleurs. Les packages vidéo et tout, quoi. Il fait des interviews, il est tellement, c'est tout le temps un salaud qui trouve toujours les bons mots pour faire mal, quoi.
Comment il pourrit Kofi Kingston pendant la vidéo, quoi. Mais comment
Kofi faire l'idiot, effectivement, et lui il est là, mais genre, c'est quoi ce gamin, tu sais, genre,
ouais, tu te fais passer pour un Jamaïcain, un gars cool, alors que t'as jamais même pas réussi à être à mon niveau, au niveau de mes chevilles, quoi, qui dit, mais. Qui lui rappelle l'année 2009, il dit « Tu veux parler de 2009 ? Alors attends, moi je vais te parler de 2009. » Alors moi, en 2009, j'étais champion intercontinental, champion du monde, j'ai gagné. Il lui balance tout son palmarès à la gueule. Quoi.
Tu veux parler de 2009, Kofi ?
Oui, tu veux quoi ? On parle de 2009, tu vois. On va rigoler à parler de 2009, mon ami. Comment il le massacre, le Kofi Kingston. J'étais poilé. Allez voir la vidéo, elle est courte, mais alors elle est énorme. Et Orton, assis en slip dans un fond noir. Ouais, moi j'ai pété des gueules et je suis 13 fois champion du monde. Alors toi, Kofi.
Et alors, tu vas faire quoi?
C'était énorme.
Il y a eu un nouveau Kofi dans la ville, New Kofi in Town. Il s'appelait Ali, justement. On en parlait juste avant. Ali. Et Ali, il lui a explosé la tête, il lui a explosé l'œil. Et du coup, c'est grâce à Randy Orton. T'as vu, on a vu la vidéo, le ralenti, là, qu'on lui explose la tête, là, avec le coup de pied.
Oui, tout à fait. Ah, mais ça aussi, j'ai trouvé ça génialissime. En tout cas, je ne sais pas qui a écrit ça, mais en tout cas, Orton, bravo, quoi. Voilà, quoi. Rappelez, c'est lui qui a défoncé Ali.
Et tu vois, Ali, il a la gueule écrasée en slow motion, et puis après, il a l'œil qui ressort, quoi. Et tu vois toute la détresse du mec. Et tu dis, putain, mais c'est vrai que c'est un salaud depuis le début, ce Randy Orton.
Du coup, Kofi, c'est un accident industriel, quoi. Voilà, quoi. Que si Randy Orton, il n'était pas là pour péter des gueules, et Kofi, il serait jamais là, quoi. Et puis, c'est tout, quoi.
J'ai jamais eu de Kofi Mania sans Randy Orton.
Ah oui, jamais de Kofi Mania sans Randy Orton. Énorme. Oh, c'était énorme. C'était court.
Il mérite qu'on le remercie. Toi. Il veut que Kofi Kingston le regarde et lui dise merci.
Ça, c'est aussi une qualité. C'est une des qualités à la WWE, si tu veux, quand même, depuis des années, des décennies, j'ai envie de dire. Quoi. C'est que souvent, il y a des packages vidéo pour te mettre la hype. Des fois, c'est tout simple. Des fois, un package vidéo de 2 minutes, 2 minutes 30, et le mec, il t'envoie un truc, mais il t'envoie une bombe, quoi.
Et, une bombe.
Et ça c'est bon. Ça, je regarde du catch pour ce genre de choses aussi, quoi. Et parce qu'ils savent faire, les amis.
Il y a tellement d'historique entre tous ces mecs. Il y a tellement de contenu vidéo que même les moindres rivalités pétées, ils arrivent à reconstruire des choses à reconstruire des histoires, à rassembler les morceaux et à te sortir des packages vidéo. T'es là, waouh, putain, mais c'est vrai que c'est un salaud depuis le début. Et quand il lui fait, le fait que Kofi est venu me défier, c'était stupide. On se souvient en fait qu'effectivement, c'était une des catchphrases, enfin un culte de Randy Orton qui avait. Placé un gros RKO à Kofi Kingston en lui disant qu'il était stupide. C'était à la même époque. Hein.
C'était il y a 10 ans, quoi. C'était il y a 10 ans.
Resté, toi, genre, stupide. C'est une de ces répliques un peu étranges, un peu chelou, tu sais. Il dit, mais toi, c'est stupide. Et là, il le ressort, toi, genre 10 ans plus tard, les mecs. Toi, les mecs, c'est des mémoires, toi. Un mec comme Randy Orton, il se souvient de tout très bien. Il saura toujours te placer la petite référence qui va faire le.
Le mec, il connaît le business sur le bout des ongles. Voilà. Moi, je suis pas toujours fan de son ringside, de son moveset, pardon, dans le ring, quoi, parce que parfois je le trouve trop lent, je le trouve trop répétitif. Mais il m'éclate sur la promo et en général comment il se comporte. Il sort souvent du script, lui. Il a eu plein de moments dans sa carrière, voilà, quoi, où ouais, il a fait un peu des grosses conneries, comme quand il avait balancé l'un des frères Singh là sur la table du commentateur et qu'il l'avait foiré, qu'il l'avait balancé dans l'angle et avec une force qui était pas du tout prévue. Enfin, Orton, il est capable de sortir de son personnage. Tout d'un coup, il est capable de ringside d'aller s'adresser à quelqu'un du public de manière totalement impromptue. Et je sais pas si tu te rappelles du Royal Rumble 2014 où il avait affronté John Cena. Et qu'il était à un moment, voilà, quoi, suite à il se faisait pourrir par le public, ça s'était super mal passé ce match avec le public, et il était carrément sorti, il s'était foutu, il s'était accoudé ringside, et puis il avait commencé à toucher avec un mec, avec un espèce de petit sourire narquois, et il avait balancé des insanités au mec, et en disant c'était une fucking crowd, voilà, que c'était une, il avait dit que c'était la worst ever crowd I ever seen. Il avait jamais vu un public aussi pourri que ce jour-là, quoi. Et Orton, voilà, il est capable de ça. Alors quand tu le mets dans un package vidéo comme celui-là, bah, c'est un petit bonbon, c'est du bonheur.
Je me souviens d'un house show à Paris là où justement c'était un match contre Mark Henry et tout d'un coup le mec s'est mis à faire des grands écarts en sautant, tu sais. Il fait souvent ça en house show, il fait toujours le con, Randy Orton, et là, ils étaient en mode hyper sérieux, et tout d'un coup, Randy Orton, il faisait des sauts de cabri complètement idiots, toi, complètement alambiqués et over the top. Et tu fais, qu'est-ce qu'il fait? Toi, il arrive vraiment. C'est un bosseur.
C'est un vétéran.
C'est un mec qui connaît comment ça fonctionne. Et effectivement, vous allez peut-être le trouver ennuyeux entre les cordes, vous allez peut-être en avoir marre de sa gueule. Mais le mec, où il faut monter, sortir le grand jeu, bah paf! Il fait ce package vidéo là avec en balançant sur Kofi Kingston qui était vraiment énorme. Kofi,
au final, ce mec là il est Grand Slam Champion.
Pas si longtemps que ça. Hein. C'est la semaine l'année dernière où il y a. Attends, c'était il y a un an ou deux où il a gagné le titre US.
Il est 13 fois champion du monde. 9 ans, c'est un vétéran affirmé et quasiment incontournable en fait à la WWE, quoi. Je pense qu'il fera toute sa carrière à la WWE et c'est un mec voilà, en vidéo, en promo, voilà, je reconnais toutes les qualités de ce bonhomme, quoi.
Ouais, non, on va avoir une belle affiche pour SummerSlam là. Kofi, jusqu'à aujourd'hui, il a affronté après Dynamite, il a affronté des bons heels, mais des heels un petit peu désœuvrés, sont vraiment grands de. Il n'y avait pas vraiment d'histoire, toi. Là, il y a vraiment une belle rivalité qui est en place entre les deux. Et une fois qu'il aura battu Randy Orton, je pense qu'on pourrait dire qu'il aura battu le boss final quasiment, toi. Pour ce vis-à-vis de Kofi Kingston, Randy Orton, c'est vraiment le boss à battre, quoi. Kofi Kingston, il va devoir battre un autre boss, c'est l'ancien propriétaire du show bleu, AJ Styles. Il est là, accompagné des Good Brothers. Maintenant, on les appelle Z aussi, hein, The Original Club. Donc, ils ont leur entrée, ils ont leur habillage vidéo, graphique. Ils ont investi là sur ce clan. On a donc un match entre Kofi et AJ Styles avec leurs compagnons qui sont autour. On a eu un beau main event là de 15 minutes entre les bonhommes. Donc le club, hein, qui aide AJ Styles qui intervient évidemment pendant le match, Du coup, là, Biggie et Xavier Woods, grosse brawl avec Gallows et Anderson. Pendant ce temps-là, Kingston retourne sur le ring et il transforme un phénoménal forearm en Trouble in Paradise. Donc, il cueille AJ Styles d'un bon coup de pied à la volée. Il est couché.
Un beau mouvement high fly, là, ce moment-là. Phénoménal forearm en Trouble in Paradise, là, c'est vraiment...
AJ Styles ne se relèvera pas de ce finisher le plus puissant. Hein. Je vous invite à faire une carrière avec Kofi Kingston quand le prochain jeu WWE sortira, parce que je pense qu'on ne peut plus se relever de ce finisher du Trouble in Paradise. Grosse victoire hein, pour Kofi. Grosse victoire pour Kofi. Face quand même à AJ Styles, le champion US, qui avait le vent en poupe là, et qui s'est bien fait allonger là, à la fin de ce match.
C'était un excellent main event avec les deux clans dominants actuellement dans les deux shows respectifs.
Il y avait de la ceinture partout. Il y avait tout le monde avait un beau morceau là autour des hanches là ce soir.
On avait les doubles champions tag team, le champion US et le champion du monde quoi. On avait de l'or là dans le ring là. Franchement moi quand j'ai vu c'était le main event, j'ai fait wouh. Mais c'est bon ça. Et du coup, bon match. Franchement, c'était un bon feu d'artifice pour finir ce SmackDown cette semaine. J'ai trouvé, alors si tu veux, alors évidemment, on est toujours dans l'histoire de la White Card Rule. Et donc, du coup, il y a du monde d'un peu partout qui vient. Mais comme tu l'as rappelé au début, c'était AJ Styles, c'était quand même voilà, le proprio de SmackDown pendant 2 ans ou 3 ans. Quoi. Donc, du coup, le voir à SmackDown en main event avec ses potos champions tag team. Et bah c'était du lourd. Moi je dis merci SmackDown. Qui a écrit SmackDown? Qui a écrit ce main event?
Attention, visiblement il y a des rumeurs comme quoi, enfin des rumeurs. Visiblement Vince McMahon a réécrit entièrement le show juste 24 heures avant l'enregistrement, le live. Donc ça veut dire qu'on va commencer à dire du bien de Vince McMahon. C'est hors de question, voyons, tu sais bien, c'est interdit.
Oui, parce qu'il y avait quand même, enfin, dans ce SmackDown, je l'ai pas trouvé impérissable non plus. Allez écouter notre review d'Euro, les amis. Vous allez voir notre historique qui a été mise.
Mais effectivement.
Ce soir, je mettrai pas une note historique, tu vois, par exemple, à SmackDown. Mais par contre, ce main event, voilà.
Main event bien amené. Voilà, on disait hein, la wild card rule, c'est de la merde. Mais par contre, justement, que tu fais venir de temps en temps, de façon très rare et ponctuelle, et des mecs qui ont la stature de AJ Styles, qui ont une justification, là tu fais waouh, là c'est pas, enfin toi, c'est des mecs qui se déplacent pas pour rien, c'est du lourd, ça fait le main event, plutôt que balancer de la mid-card aléatoire à droite à gauche, on sait plus vraiment qui est où, là ça fait genre les mecs se déplacent, toi, si les mecs se déplacent, c'est que c'est important, c'est pas parce que c'est la wild card rule, c'est parce que les mecs de Raw, s'ils viennent à SmackDown, c'est qu'ils sont venus régler des comptes.
Et du coup, et puis tu connais le fait que moi j'aime bien qu'un weekly ça se termine toujours par un main event fort quoi, pour te laisser une bonne impression justement. Et moi j'aime bien que les choses terminent comme ça, où tu te dis voilà, le main event se termine, tu te dis voilà, ouais, là ça a envoyé quoi.
Et mec, ça se termine comme ça, mais ça s'est pas terminé comme ça. Puisque juste après, on a une séquence un petit peu bizarre qui aurait pu trouver sa place n'importe où ailleurs. C'est Roman Reigns qui marche dans les couloirs de l'arène. Il va rejoindre Kayleigh Braxton pour une interview importante, puisqu'il doit nous annoncer qui il souhaite affronter à SummerSlam. Mais sur le chemin, le gros toutou sent que quelque chose cloche, il se retourne et il y a tout simplement un échafaudage métallique qui lui tombe sur la gueule. ça s'affole, ça court dans tous les sens. Roman Reigns s'est étrangement épargné. Je veux dire, le mec limite, il a pas du tout été touché par l'échafaudage, alors qu'il s'est quand même fait écraser normalement, hein, la façon dont c'est tombé. Mais non, il remonte, il réagit pas. C'est poker face. C'est genre tiens, qu'est-ce qui s'est passé? Bon. Puis il repart dans l'autre sens. Il envoie bouler un peu les équipes médicales qui viennent un petit peu dès qu'il le touche, le mec, me touche pas, laisse-moi tranquille. Et puis il repart. Et puis on n'en saura pas plus.
Voilà. Voilà. Bah écoute, segment très très court pour finir SmackDown et pour nous laisser savoir la question que tout le monde se pose dans tous les bons salons parisiens, c'est qui a attaqué Roman Reigns?
attaquer Roman Reigns? Et est-ce que, si tu devais parier sur quelqu'un aujourd'hui, sur qui tu parierais?
Eh ben moi, je tenterais Daniel Bryan. Je sais pas pourquoi. Comme ça.
Et ce serait été, c'est pas con, hein. Ouais.
Moi, je tente. Je tente Daniel Bryan. On va voir au fur et à mesure du temps ce qui va se passer. Mais moi, aujourd'hui, au 2 août 2019, je tente Daniel Bryan. Et toi?
Ah, du coup, j'ai envie de tenter comme toi parce que ça me plaît bien ton histoire avec. Et ça aurait été son homme de main, là, Eric Rowan, qui aurait poussé le.
Par exemple. Eh oui. Alors, je pense qu'il y a plusieurs pistes, hein. Il y a plusieurs catchers possibles là. Hein, dans cette
On nous parle sur le Discord de Catchup, hein, que je vous invite à rejoindre, le lien est dans la description. On a eu le nom de Lars Sullivan. Golgoth, blessé, qui reviendrait, qui est suffisamment costaud pour pousser des échafaudages.
Quoi, dans l'onglet WWE sur Discord?
Alors, dans l'onglet spoiler, maybe. Ouais, spoiler area. Donc, l'onglet qu'il ne faut pas ouvrir si vous n'avez pas vu les shows.
D'accord.
C'est l'ami Xel Texen ou Mister X, comme Giscard aime l'embêter, qui nous dit que, pour lui, d'après lui, ce serait Lars Sullivan. Et il nous dit, on balance, hein, pourquoi pas le Big Show ou Shelton Benjamin ou Andrade. Donc, le mec a fait tous les différents gabarits, là.
Sur Lars Sullivan, j'avais lu aussi, je crois, il y en a pas un qui a parlé de Buddy Murphy aussi, je crois. Pourquoi Buddy Murphy, d'ailleurs, Buddy Murphy, c'est...
Non, je pense que ce mec, on l'a viré, on a dû le ban de Discord, parce qu'on ne dit pas des conneries comme ça, je pense.
Et ou Lars Sullivan, hein, Shelton Benjamin, non, le Big Show, il faut oublier. Andrade, oui.
Faut que ça soit un costaud quand même.
Ouais, non, mais je vais garder ma pièce sur la team Daniel Bryan.
Ouais,
Rowan, je pense que c'est Daniel pas mal. Bryan qui serait derrière ça. Allez, je reste là-dessus, on en reparlera la semaine prochaine.
Belle affiche, ce serait une belle affiche. Bon, bah, en tout cas, c'est comme ça que c'est terminé ce SmackDown. C'est l'heure du mot de la fin, mon bon Chris. Si tu veux bien nous partager ton top, ton flop et ta note, s'il te plaît.
Alors, mon flop, je vais le mettre aux filles. Le seul segment féminin véritablement, enfin pas Trish Stratus Charlotte, mais je vais le mettre au match Alexa Bliss Cross Bayley Ember Moon. Vraiment, ouais, j'ai trouvé ça sans intérêt. Ne comprenons pas trop le développement de la feud entre Bayley et Ember. Je suis pas un fan moi de l'association Cross Bliss. Donc c'est un élément du show qui m'a vraiment pas plu, qui m'a pas intéressé en tout cas. Voilà, donc je le donne à ça. Mon top, bah il y a eu quand même, on a eu un Kevin Owens Drew McIntyre de 13 minutes qui était quand même quelque chose, mais bon, eut égard à, j'aime bien quand même donner mon top au main event. Là, ils ont envoyé du lourd, on avait de l'or dans le ring. On avait champion du monde, champion US, tag team champion des deux SmackDown et Drew. Donc c'était quand même du très très lourd. Donc j'ai gravement apprécié ce main event de SmackDown Live cette semaine. Et ma note, va être pas super haute parce que la plupart des matchs ont été très très courts. Il y a eu que le Drew McIntyre KO qui a duré 13 minutes et l'excellente promo de Randy Orton. Voilà, c'était pas mal. C'était un bon show qui se termine avec un bon main event. Donc je vais lui mettre un 3,5. Allez.
Oh, bah c'est une note tout à fait honorable, effectivement.
Oui, parce que je ne lui donne pas la même note qu'Aro, ça c'est sûr. Mais c'était globalement sympa. Voilà, il y a eu un ou deux trucs que je trouvais sans plus. Mais globalement, pour un show qui dure 1h20 en réel, 1h20, 1h25, c'était bien, c'était sympa. C'était sympa.
Écoute-moi, pour mon flop... J'hésite un petit peu entre Jerry King Lawler, la phase d'échange entre Stratus et Lawler, et puis cette séquence un peu grotesque de Roman Reigns. Mais au moins, la séquence grotesque de Roman Reigns, ça durait moins longtemps, et c'était tellement ridicule.
Que, ouais, puis c'était court, hein. Franchement.
Ouais, c'était court, voilà. Donc je vais plutôt le donner à toute la promo entre Lawler et Stratus, qui était long et mal joué, on aurait pu faire ça beaucoup plus rapidement. C'était vraiment pas, heureusement que Charlotte est venue sauver le bousin, parce que je trouve que globalement, cette affiche-là, elle est belle, mais qu'ils l'ont pas très bien. Ils auraient pu l'amener d'une façon, d'une meilleure façon. Ils auraient pu nous faire monter la sauce un peu différemment. Mais bon, il n'y a que le résultat qui va compter, on va dire. Et mon top, eh ben mon top, je le donne à ce package vidéo de Randy Orton. Dedans, il y a tout ce qui fait la magie des packages vidéo de la WWE. Il y a de l'histoire ancienne, des histoires qui se croisent, des belles images, un mec méchant qui te balance des saloperies sur un mec gentil. Donc c'était parfait. Et ma note, je vais mettre un 3,75. C'était vraiment un super épisode de SmackDown direction SummerSlam. On est concentré là sur le show, ça fait plaisir. Le seul truc effectivement qui est chiant, c'est cette histoire de Nikki Cross et Alexa Bliss, mais je me dis c'est pas possible, ils vont réussir à nous les mettre dans la scène tag team. D'ailleurs, où on n'a pas eu droit de match comme on nous avait annoncé. Hein. On aurait dû avoir un match de comment elle s'appelle, Mandy Rose et Sonya Deville contre Deville et
Ouais.
Et la mais team des japonaises, et ça a été reporté parce que l'une des deux est malade, qui est faible, je crois.
Ouais, et puis le botch de Mandy Rose de la promo de la semaine dernière a pas beaucoup plu apparemment aux coulisses, quoi.
Ah ouais, merde. Des fois, c'est tolérance zéro, hein, parfois. Parfois, on peut dire des grosses conneries et parfois, vaut mieux pas. Bon, bah, voilà, ce serait bien qu'il se passe un petit peu quelque chose pour cette ceinture en pré-show de SummerSlam. Tu nous fais un Fatal 4-Way.
À signaler quand même que la Tag Team Division à Raw en ce moment est d'un niveau incroyable et que à SmackDown par contre ça a beaucoup baissé au niveau de la Tag Team, quoi. Je suis assez déçu de ce qui se passe sur la scène Tag Team de SmackDown.
Ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord que là c'est vraiment clairement plus leur point focal, quoi. C'est plus leur priorité, la scène Tag Team, elle est un petit peu dissoute là. Je pense qu'effectivement, c'est bien d'avoir remis les ceintures autour des anges du New Day, mais je pense qu'ils peuvent le perdre assez rapidement là après SummerSlam, parce que
voilà, franchement, à SmackDown, ils souffrent de la comparaison avec ce qui se passe à Raw depuis plusieurs semaines là. Vraiment, à Raw, la Tag Team Division en ce moment, c'est un régal, carrément un régal. Je le dis, un régal, voire un William régal.
Un William régal serein pour les amateurs de cassoulet. Allez, ça m'a donné faim tout ça. Bon, allez, il est l'heure d'arrêter, d'aller manger et de faire l'autopromo. Donc, Catch Up, votre podcast qui résume et analyse les shows de la WWE. Vous pouvez nous retrouver en audio sur Spotify, iTunes, PodCloud, mais également en vidéo sur YouTube. N'hésitez pas à commenter justement sur la vidéo YouTube, à nous partager votre top, votre flop et votre note. Qu'est-ce que vous avez kiffé? Qu'est-ce que vous avez détesté? Qui a poussé cet échafaudage sur la gueule de Roman Reigns? Est-ce que c'est Daniel Bryan? Est-ce que c'est Lars Sullivan? Ou est-ce que c'est Giscal? Est-ce que c'est le fantôme de Harley Race, même s'il n'était pas encore mort? Du coup, là, il y a un mystère à résoudre.
Giscal, il aime trop Roman. Giscal, c'est un babyface, c'est pas un heel. Je pense que c'est plutôt Ringside qui est derrière tout ça.
Qui a fait ça? Balancer les noms, il faut balancer sans aucune preuve. Vous n'êtes pas obligé d'apporter des preuves, juste vous balancer. C'est comme ça qu'on fait la justice aujourd'hui sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas également à vous abonner pour manquer aucun épisode. Il y a les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram et le Discord. Je vous en ai parlé dans le lien est dans la description. Mon bon Chris, merci encore à toi pour ta présence et ta fine analyse.
Merci à toi, mon Irem.
On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour les Go Home Show. On y arrive à SummerSlam. D'ici là, on vous souhaite à toutes et à tous une bonne semaine pleine de catch. Salut.
Salut Irem. Salut peuple de catcheurs. I'm a Brighton champ!